Afrique. Morgane Diriec, en votre compagnie, ravie de vous retrouver dans Washington Forum. Émission spéciale aujourd'hui, les musulmans dans l'espace politique aux États-Unis.
Washington Forum.
À 13 jours de la présidentielle, les musulmans des États-Unis sont sous les feux des projecteurs. Stigmatisés par le candidat républicain Donald Trump, qui propose de les empêcher d'entrer sur le territoire américain, les musulmans représentent pourtant un électorat à séduire pour sa rivale démocrate Hillary Clinton. Il faut dire qu'on estime le nombre de musulmans vivant aux États-Unis à plus de 3 millions. Alors au-delà des rhétoriques électoralistes suscitées par la course à la Maison-Blanche, les musulmans américains sont des citoyens comme les autres. En matière politique, ils ne sont d'ailleurs pas en reste, comme nous le révèle Kane Farabout dans ce documentaire. Traduction et récit, Anastasie Tutiesh.
Je pense que la foi n'a absolument rien à voir avec le travail, pas plus que la nationalité.
Pas sûr que les gens le voient comme une urgence. Je sens que nous vivons une crise des démocraties.
Je suis sociable, j'aime aider les gens, ma communauté.
Je me présente pour être la voix de mon district.
J'aime ma communauté et j'aime le rêve américain.
C'est formidable que quelqu'un venu d'un autre pays qui n'a appris l'anglais qu'à 14 ans me représente.
C'était le soir de mon premier conseil municipal et je ne peux pas me permettre de le manquer.
Si seulement il ne s'agissait pas d'identité.
Nous avons entamé un dialogue national sur la race et la religion.
Certaines personnes pensent qu'un musulman peut porter préjudice au parti.
Il y a de nombreuses communautés dans ce pays où les musulmans sont plus d'1%. Michigan, Virginie, Minnesota, Californie, New York, il y a beaucoup d'endroits dans ce pays où le vote musulman est crucial.
Deux musulmans sont membres de la Chambre des représentants, Keith Ellison du Minnesota et Andrew Carson de l'Indiana. Tous deux sont des convertis nés américains.
Aucun musulman américain immigré n'a exercé de mandat politique national aux États-Unis, même si certains sont membres d'administrations municipales. Pourtant, l'islam est l'une des religions à plus forte croissance dans le monde.
Le Congrès américain actuel compte seulement 6% d'immigrés, c'est-à-dire 6 membres, ce qui est le taux le plus bas de l'histoire de notre pays, malgré l'accroissement du flux migratoire sur le territoire américain.
En cette année électorale, un certain nombre d'Américains musulmans travaillent à inverser la tendance en briguant des postes tant au niveau municipal que national.
Si selon la célèbre expression d'un législateur américain, la politique est une affaire locale, alors l'Assemblée générale de l'Illinois au nord-ouest de Chicago est tout ce qu'il y a de plus local, donc politique. Elle est l'une des plus diversifiées de l'État. Paul Sack y a grandi. Et le fonctionnement de la politique dans sa ville natale ne lui paraît pas très enthousiasmant.
Nous sommes censés être représentés par des centaines de milliers de personnes, de la mairie au comté, en passant par les quartiers, mais en fait, très peu ont le pouvoir.
Mais Paul Sack a bon espoir que les temps vont changer. Il a appris qu'un nouveau candidat brigue un siège à l'Assemblée générale. Un musulman américain immigré qui jusque-là n'a jamais eu de mandat. Harish Patel se définit lui-même comme démocrate indépendant, qui n'appartient à aucun parti.
Les besoins de ma communauté ont été complètement ignorés par l'État de l'Illinois. Et nous vivons une crise de la démocratie.
En 1999, Harish Patel a quitté l'Inde pour les États-Unis avec sa mère. Il ne parlait pas anglais. Mais grâce au programme de sa mairie, il a pu apprendre la langue et décrocher un diplôme universitaire. et il en est très reconnaissant.
Tout ça, c'est grâce à l'investissement de la communauté. Aujourd'hui, c'est à moi de faire en sorte que ces programmes continuent pour que les nouveaux arrivants, comme les habitants du quartier, y aient aussi accès.
S'il gagne les élections primaires, Harish Patel sait qu'il a toutes les chances de gagner les élections générales en novembre, puisqu'il n'a pas de rival républicain face à lui. Ce qui signifie qu'il pourrait devenir le premier musulman américain immigré de l'histoire, élu à l'Assemblée générale. C'est pourquoi Paul Sack a décidé de faire plus que l'élire. Il a rejoint son équipe de campagne.
C'est formidable que quelqu'un venu d'un autre pays qui n'a appris l'anglais qu'à 14 ans me représente.
L'Institut de recherche Pew estime que les États-Unis comptent 3,3 millions de musulmans, soit 1% de la population. Ce chiffre devrait doubler d'ici le milieu du siècle, mais il reste relativement modeste, juste devant les bouddhistes et les hindous. Et pourtant, pendant cette séquence électorale, la présence des musulmans est amplifiée et le plus souvent, pas dans le meilleur sens. La diabolisation des candidats musulmans pendant la campagne présidentielle a poussé certains musulmans américains à faire entendre leur voix.
C'est le genre de choses qui se propagent, provoquent de l'anxiété dans les communautés et sèment la panique. Alors je dis non. Bien plus, je vais raconter ma propre histoire en espérant que d'autres membres de la communauté raconteront leur propre histoire et expliqueront ce qu'être musulman américain signifie vraiment.
C'est le jour des élections primaires que le candidat Patel saura si les appels téléphoniques, les poignées de main et autres réunions ont été payantes. Il lui reste une dernière étape de campagne, la sortie d'un bureau de vote où des centaines d'électeurs de la dernière minute se pressent dans les locaux d'un concessionnaire automobile. Paul Sack est optimiste pour la candidature d'Harish Patel.
Les sondages sont très serrés, beaucoup de gens le soutiennent.
On constate aujourd'hui qu'il attire beaucoup de personnes autour de lui.
John Arena représente les partis du 40e district où Harish Patel espère battre son rival démocrate sortant, Jaime Andrade.
Je pense que nous sommes à la recherche d'une nouvelle génération de leaders à Chicago et je suis très fier de nos échanges passionnés et que quelqu'un comme Harris soit dans la course et prenne part aux échanges.
Monsieur Arena soutiendra toutefois l'opposant de Harish Patel aux primaires.
Je crois que Harris a montré que son manque d'expérience risque de lui poser problème.
Pour John Arena, la religion de M. Patel n'a aucun lien avec sa décision de soutenir M. Andrade.
Nous ne serons jamais un pays monolithique avec une couleur unique ou une religion unique. Nous ne l'avons jamais été.
Un groupe de supporters de Harish Patel attend le résultat des élections qui ont enregistré un nombre record de participants. Mais les chiffres n'ont pas été à la hauteur des attentes du candidat et de son équipe de campagne dévouée.
Harish a appelé Jamie, il a reconnu sa défaite.
Harish Patel a perdu face au candidat sortant avec un écart de 20 points.
Merci beaucoup.
Harish Patel ne deviendra donc pas le premier musulman américain immigré élu de l'État de l'Illinois.
Je suis très ému.
Mais il a promis à ses supporters que ces élections perdues marquaient non pas la fin, mais le début de sa quête de changement dans la politique locale.
Aujourd'hui, le monde, l'État, la nation ont besoin de plus de folie idéaliste.
C'est les Nations Unies en miniature.
Mohamed Khan est arrivé d'Inde à Des Moines dans les années 70. Et le groupe avec lequel il prie aujourd'hui est très différent de celui avec lequel il priait à l'époque.
Notre communauté s'est maintenant diversifiée.
Et elle s'est agrandie. Le recensement américain montre que le nombre d'habitants de l'Iowa nés à l'étranger a triplé entre 1990 et 2013. Il constituerait aujourd'hui 6% de la population.
Ici, probablement près de 95% sont des immigrants. Soit ce sont des réfugiés, soit des immigrants.
Selon M. Khan, les trois quarts de ceux qui fréquentent sa mosquée, l'une des six plus grandes de la région, sont des citoyens en mesure de voter. Mais il ajoute que les inciter à le faire est un défi.
C'est très compliqué de pousser les gens à s'inscrire ou même voter. Beaucoup viennent de pays déchirés par la guerre où ils ont payé le prix fort pour avoir soutenu tel ou tel autre candidat. Du coup, ça leur fait très peur.
Tahir Ali, de l'Alliance musulmane américaine, dit que c'est même là la première raison pour laquelle de nombreux musulmans américains immigrés qui peuvent voter boudent les urnes au moment des élections.
Le processus électoral dans certains pays d'origine est parfois corrompu ou truqué.
Beaucoup d'immigrés sont encore en train de prendre leur marque. Ils essayent de s'occuper de leur famille, d'élever leurs enfants.
Sarwat Hussein est la présidente et fondatrice de la branche de San Antonio, Texas, du Conseil des relations islamiques américaines. Elle est aussi cofondatrice du caucus musulman américain démocrate, un groupe politique local. Créé après les attentats du 11 septembre 2001, en partie pour répondre aux agressions envers les musulmans qui ont suivi, l'organisation voulait aussi encourager les Américains musulmans à s'impliquer davantage dans la vie politique américaine.
Nous avions tellement peur à l'époque, les gens nous décourageaient.
L'AMDC a commencé avec une antenne au Texas en 2004. Sarwat Hussein dit qu'il y en a aujourd'hui 79. Et bientôt plus, ajoute-elle. Elle en veut pour preuve la foule qui s'est pressée au déjeuner organisé par l'AMDC à Philadelphie lors de la Convention nationale démocrate. En route vers son bureau de vote au lycée de Greenspan, Greg LeDuc n'arrive pas à se décider. Pour qui va-t-il voter aux élections primaires démocrates du 3e district du Nevada ?
Je ne savais vraiment rien de ces candidats.
Mais sa rencontre par hasard avec Jessis Bay à la sortie du bureau de vote a aidé Greg LeDuc à faire son choix.
Il sortait du bureau en famille et il m'a vraiment fait bonne impression.
Craig LeDuc a choisi Jessis Bay, bien que connaissant très peu le candidat ou ses positions. Mais pour lui, il est évident que le rencontrer juste avant le vote a été déterminant.
C'est ce qu'on appelle un heureux hasard.
Pour les nouveaux candidats comme Jessis Bay, le chemin vers l'élection est semé d'embûches. Il faut se faire un nom, développer un réseau de supporters, récolter des fonds. C'est pourquoi il a demandé à rencontrer le sénateur de la majorité, Harry Reid, leader démocrate dans le Nevada, pour tenter d'obtenir son soutien.
Et je lui ai parlé des problèmes de notre communauté.
Mais Jessis Bay raconte que très rapidement dans la conversation, il a été question de religion.
Il m'a dit, permettez-moi d'être direct, vous ne pouvez pas remporter ces scrutins parce que vous êtes musulman.
Le bureau du sénateur Reid n'a pas souhaité commenter auprès de VOA ses propos, mais a nié dans d'autres médias les avoir jamais tenus. S'il est élu, Jessis Bay deviendrait le premier Américain arabe musulman immigré du Congrès.
Salut, comment allez-vous ? Je suis Jessis Bay.
À l'âge de 11 ans, il est arrivé de Jordanie avec ses parents.
Et à mon arrivée, je ne parlais pas anglais. J'avais toujours un dictionnaire avec moi pour communiquer avec mes camarades, mes professeurs et tout le monde.
Rapidement, l'élève Sbahi a assimilé la langue, puis il est devenu citoyen américain. Il a alors gravi les échelons sociaux, de l'école de droit à la Cour suprême du Nevada, où il a été assistant, avant d'ouvrir son propre cabinet juridique à Henderson, en banlieue de Las Vegas. Il y exerce aujourd'hui en tant qu'avocat spécialiste des dommages corporels.
Et j'ai l'impression que ces opportunités qui m'ont fait réussir et réaliser le rêve américain échappent à beaucoup d'autres Américains.
Jessis Bay dit que c'est lors de sa rencontre avec le sénateur Reid qu'il s'est pour la première fois senti stigmatisé à cause de sa religion. Il l'a raconté au début de l'année.
Ce qui s'est passé pendant ces rencontres devait être raconté. Les électeurs doivent savoir.
Disons que je pense que la religion a certainement influencé Harry Reid dans la décision de le soutenir ou pas.
Il y a quelques années, Angie Morelli, 33 ans, était marine en Afghanistan. À cette époque, elle n'aurait certainement jamais imaginé devenir la directrice de campagne d'un candidat démocrate tel que Jesse Spahn.
Je suis une marine. Quand j'ai fini de servir, j'ai créé une petite affaire et voilà, les statistiques pour un républicain.
Mais aujourd'hui, Angie Morelli est démocrate. C'est en soutenant avec ferveur la candidature présidentielle de Bernie Sanders qu'elle a rencontré Jesse Spahn. L'avocat a très vite soutenu le sénateur du Vermont pour sa candidature aux primaires démocrates.
Je suis juive laïque, comme Bernie.
Mais pour Angie Morelli, le fait qu'une juive et un musulman travaillent ensemble n'est pas ce que les électeurs ni les militants voient.
Une juive qui gère la campagne de Jesse, ça nous a fait rire. On est passé à autre chose et c'est la seule fois qu'on en a parlé. Ce n'est pas important. Notre plateforme électorale, c'est ça qui est important.
Par exemple, comment répondre efficacement à la menace terroriste internationale inspirée par le groupe État islamique ? Jesse Spahn a eu du mal à répondre.
Ça a été très lourd pour Jesse. Il a cherché la réaction la plus appropriée. Et moi aussi, ce qui a été très perturbant, c'était cette impossibilité de réagir face à ce drame en tant qu'être humain. On faisait pression sur nous pour qu'il réagisse en tant que musulman.
Alors, Jesse Spahn va-t-il remporter ces élections ? Restez avec nous, on le saura après cette pause.
Mais le jour de l'élection, ni la religion de Jesse Spahn, ni sa réaction aux attaques terroristes n'ont fait changer Greg Ledoc d'avis.
Maintenant, je souhaite vraiment qu'il gagne.
D'après le décompte des voix, peu d'électeurs partageaient l'optimisme de Greg. Au fur et à mesure que les résultats s'affichaient, la fin de la campagne semblait une évidence pour l'équipe Spahn. C'est Jackie Rosen qui l'a emporté devant Jesse Spahn et les quatre autres candidats. Homme d'affaires juif américain, Jackie Rosen se présentait pour la première fois. Jesse Spahn, qui a en partie financé sa campagne sur fonds propres, attribue la victoire de Jackie Rosen au soutien du sénateur Harry Reid et du Parti démocrate, des soutiens qu'il a échoué à obtenir. Analysant sa campagne, il se demande encore quel poids la religion, la sienne comme celle de son rival, a eu dans la course pour un siège au Congrès.
Je pense qu'il serait très difficile de trouver des gens qui admettent qu'ils n'ont pas voté pour moi ou pour un autre pour des motifs religieux ou ethniques. Et si c'est le cas, ce serait vraiment malheureux. J'espère que ce n'est pas cette Amérique que nous sommes.
J'aurais aimé qu'on parle des vrais problèmes que de parler du fait que Jesse soit musulman et Jackie juif.
Je suis sociable, j'aime aider les gens, ma communauté et ma ville.
Le jour où il est devenu citoyen américain a été l'un des plus grands moments de la vie de Saad Al-Masmari. Le soir où il a récolté le plus de votes lors de la course au conseil municipal de Hamtramck aussi. En novembre 2015, Saad Al-Masmari était l'un des trois candidats musulmans américains en lice. Tous trois ont remporté des suffrages dans une ville qui compte l'une des plus nombreuses populations de citoyens nés à l'étranger de l'État du Michigan.
Hamtramck est la ville qui compte le plus de musulmans.
Cette ville a une particularité. Les membres de son conseil municipal sont majoritairement musulmans.
Osama Siblani est le directeur de publication des Nouvelles Arabes Américaines. La victoire de Saad al-Masmari a fait la une du journal. Les élections aussi.
Donald J. Trump demande que l'on refuse l'entrée du territoire à tous les musulmans jusqu'à ce que nos élus comprennent ce qui se passe dans le pays.
L'appel de Donald Trump à interdire le territoire aux musulmans a beaucoup irrité Aham Tramak.
Nous, les Yéménites, composons 27% de la population de Hamtramck. À ça, ajoutez 22% de Bengalis et 11% de Bosniaques, tous des musulmans.
Hamtramck est un cas d'étude pour les changements démographiques liés à l'immigration récente. Pendant plus d'un siècle, cette banlieue de Detroit a été la ville des Polonais catholiques immigrés et de leurs descendants. Elle a prospéré avec le développement de l'industrie automobile. Mais son sort a brutalement changé il y a quelques décennies avec la chute des trois grandes firmes automobiles, la diminution de l'emploi et la fermeture des usines. L'argent ayant déserté Hamtramck, les ouvriers sont partis, emportant avec eux tradition et identité. Désormais musulmans américains, ses habitants sont propriétaires de boutiques ou gérants de petites entreprises.
Nous sommes habitués aux vagues de nouveaux migrants et des changements qu'ils entraînent dans notre ville. C'est ce que nous faisons, c'est notre identité. Ce qui a été surprenant, c'est toute cette attention nationale comme internationale.
Et pourtant, à la sortie du premier conseil municipal de Saad al-Masmari, seuls deux médias, dont La Voix de l'Amérique, étaient présents pour immortaliser l'événement. Saad al-Masmari n'aurait manqué ce moment pour rien au monde, malgré une invitation lancée le même soir à assister au discours sur l'état de l'Union par le président Obama.
Mais j'ai décliné. C'était le soir de mon premier conseil municipal et je ne peux pas me permettre de le manquer. J'ai été élu pour servir cette communauté.
Saad al-Masmari nous dit qu'il a reçu plus de 75 demandes d'interview. Et ça continue.
Un journal m'a demandé, si vous pouviez rencontrer M. Trump, le feriez-vous ? J'ai répondu que je n'y voyais pas d'inconvénient. Trois jours plus tard, je recevais un courriel de son équipe de campagne me demandant si j'avais 15 à 20 minutes pour rencontrer M. Trump.
L'élu nous dit avoir été trop pris pour donner suite. Mais s'il rencontrait Donald Trump, il n'aborderait pas le sujet de la foi.
Je suis fier d'être musulman, mais je la sépare de mon travail au conseil municipal. Au conseil, je suis américain avant d'être musulman.
Saad al-Masmari demanderait plutôt à Donald Trump d'aider Hamtramck, économiquement affaibli, avec l'un des taux de pauvreté les plus élevés de l'État du Michigan.
C'était le problème principal, ça allait rester, et nous allons travailler dur pour en venir à bout.
L'ancien vice-président et ambassadeur américain Walter Mondale est du Minnesota. Au fil du temps, il a été le témoin de nombreux changements.
Quand j'étais jeune politicien, il y avait dans les campagnes électorales des Scandinaves, des Allemands, des Européens. Maintenant, au centre-ville de Minneapolis ou de Saint-Paul, un énorme changement s'est opéré dans la composition ethnique de ces communautés.
Aujourd'hui, 25 000 Américains d'origine somalienne sont installés dans le Minnesota. La plupart sont des réfugiés qui vivent à Minneapolis ou dans ses environs. Minneapolis, où se trouve le dynamique Little Mogadiscio. Pour Walter Mondale, cette nouvelle vague d'immigration a entraîné des changements notables dans le Minnesota. Des changements que l'État a été lent à prendre en compte.
Les immigrés cherchent leur voie ici. Ils se font à notre société, à ses lois, à notre fonctionnement. Mais beaucoup n'ont pas d'expérience de démocratie. Ils ne savent pas comment ça marche ou même si ça existe.
Mais à Minneapolis, pour les Américains d'origine somalie, une femme sort du lot.
Je porte le foulard et en tant que personne visiblement musulmane, je veux que les gens comprennent que mes identités comme ma place dans cette société, ne sont en rien une menace.
Ilan Omar, 32 ans, est né en Somalie et a été élevé dans un camp de réfugiés au Kenya. La jeune femme est sûre d'elle et ne s'excuse pas d'être.
Ni d'être musulmane, noire, immigrée ou réfugiée.
Autant d'éléments qui font d'elle la candidate la moins probable pour une campagne à la Chambre des représentants du Minnesota. Lawrence Jacobs, enseignant à l'Université du Minnesota.
À première vue, Ilan Omar n'avait rien pour elle. Musulmane dans un État à prédominance chrétienne, noire dans l'un des États parmi les plus blancs du pays, femme dans un milieu où les femmes sont peu représentées, immigrée dans un État qui compte peu d'immigrés, autant de barrières.
Ces obstacles ont fini par constituer la base du discours d'Ilan Omar. Avoir annoncé sa candidature dans un district très libéral de Minneapolis a certainement été un plus pour elle. Trois candidats s'affrontaient pour le siège démocrate. Ilan Omar, Mohamed Khan et un autre immigré, somalien lui aussi, Mohamed Nour. Pour beaucoup dans la communauté somalienne du Minnesota, le vote sera à départager entre un homme, Omar, et une femme, Nour.
Dans ma communauté, le pouvoir est plutôt réservé aux hommes, donc ça n'a pas été facile.
Ilan Omar a alors décidé de chercher du soutien en dehors de sa communauté. Elle s'est tournée vers les nombreux étudiants qui habitent le district. Patrick English est l'un d'eux.
Nous sommes d'accord sur de nombreux points et avons les mêmes préoccupations.
Non seulement Patrick a voté pour les élections primaires, mais il a également rejoint la campagne d'Ilan Omar et a commencé à en parler autour de lui. La vie et le parcours de la candidate ont été des atouts majeurs pour des électeurs en quête de changement.
Une identité qui ne renvoie pas aux privilèges a de fortes chances. Pour un progressive voter,
definitely will help. Le travail d'Ilan Omar s'est avéré payant. Elle a remporté les élections primaires. Mais le dépouillage des votes a montré que ce ne sont pas les Somaliens qui l'ont élu. Ils lui ont préféré Mohamed Nour.
Yes, we did.
Elle a pourtant engrangé suffisamment de voix pour dépasser ses rivaux, grâce notamment aux étudiants qu'elle a courtisés, comme Patrick English.
Nous allons avoir plus de gens comme Ilan aux affaires.
Mais il lui reste encore une victoire à remporter. Les élections générales du 8 novembre. Une victoire plausible, puisqu'il n'y a pas de rival républicain actuellement dans la course. Après la proclamation du résultat final, si Ilan Omar franchit les portes du Capitole de l'État du Minnesota lors de la prochaine session, la jeune femme entrera dans l'histoire en devenant la première législatrice musulmane américaine immigrée des États-Unis d'Amérique.
The weight of it, I think it's huge.
Un parcours remarquable pour une femme qui n'a pas oublié une enfance marquée par la lutte pour la survie.
Il y a 22 ans, la petite fille du camp de réfugiés voulait survivre à tout prix. Et au jour le jour, elle n'aurait jamais imaginé aller si loin, accomplir autant de choses. Et l'adulte en moi continue de penser à la survie et au jour le jour.
Survivre aujourd'hui pour offrir à la génération suivante un modèle, une inspiration.
Cette petite fille, les opportunités qu'elle n'a pas eues, que beaucoup de petites filles dans le monde n'ont pas, je la garde en moi. Elle me pousse à continuer mon combat politique.
Work in politics.
Washington Forum, c'est déjà la fin. Merci de nous avoir suivis dans cette émission spéciale sur les musulmans dans l'espace politique aux États-Unis. Pour ce qui est de la présidentielle du 8 novembre, je vous invite à suivre notre couverture en direct. Nos envoyés spéciaux seront à New York, les QG d'Hillary Clinton et de Donald Trump. À bientôt.